les riches grecs. La crise a laminé les couches populaires grecques, mais toute une frange de la population, bourgeoisie aisée, profession libérale dans les beaux quartiers, traders, hommes d'affaires, politiciens, a parfaitement su non seulement s'accommoder de la crise, mais en profiter. Ces privilégiés pratiquent un sport national dont on accuse à tort la population dans son ensemble, l'évasion fiscale qui coûte au pays, selon les estimations, de 10 à 40 milliards d'euros par an. Mais les vrais capitalistes, on les trouve d'abord parmi les armateurs qui ne paient pas d'impôts sur le revenu ni sur les bénéfices. Jusqu'à il y a un an, ils ne s'acquittaient que d'une taxe forfaitaire sur le tonnage des navires immatriculés en Grèce, soit environ le quart de la flotte, et prétendaient en faire assez pour le pays avec leur fondation culturelle. En 2013, ils ont accepté de verser une contribution volontaire pendant 3 ans, un geste que Samaras, ex-premier ministre de droite, a qualifié de réellement émouvant. Avec des rentrées prévues de 75 à 100 millions d'euros par an, cet impôt était surtout ridicule, compte tenu des revenus des armateurs. La flotte grecque, constituée en grande partie de très gros transporteurs de pétrole ou de denrées sèches comme les céréales, est redevenue la première du monde en tonnage au début de l'année 2014. Les armateurs ont investi 13 milliards de dollars, plus de 11 milliards d'euros, dans la construction de nouveaux navires en 2013. Selon le journal suisse Le Temps, leur chiffre d'affaires annuel est estimé à 13 milliards d'euros, soit 5% du PIB grec. Les armateurs ont su se diversifier et les Latsi, milliardaires considérés comme la première fortune de Grèce, contrôlent la plus grande raffinerie du pays, une banque renflouée par l'Europe et des activités dans l'immobilier. Les Vardino Yanis sont aussi propriétaires de Motoroil, la deuxième raffinerie du pays, et actionnaires de chaînes de télévision. D'autres capitalistes grecs, peut-être moins fortunés que les grands armateurs, ont bien survécu à la crise dans différents domaines. La grande distribution, telle Marinopoulos, ou le secteur des travaux publics, ou encore comme constructeur et concessionnaire d'infrastructures, routes et ponts. Ainsi, en 2014, le groupe Elactor a vu redémarrer ses projets autoroutiers qu'il partage avec d'autres trusts grecs comme JP Avax, mais aussi allemands ou français comme Vinci, grâce aux subsides européens et à l'aide de l'État grec. Quant à l'Église grecque, elle constitue une puissance non seulement religieuse, mais économique. Elle n'est pas assujettie à l'impôt, sauf sur ses biens commerciaux. En 2012, elle a tenu à dire qu'elle avait payé 12,5 millions d'euros au fisc pour 2011 et qu'elle avait consacré 100 millions à ses œuvres philanthropiques, aide sociale et soupe populaire. Mais l'ampleur de sa fortune reste un mystère. Elle est le deuxième propriétaire foncier après l'État. Le journal conservateur Katimerini a estimé ses biens à 700 millions d'euros, un ancien ministre des Finances à plus d'un milliard, et d'autres l'évaluent à plusieurs milliards. Pour tenter de tirer un peu de profit de ce patrimoine à défaut de l'imposer, l'ex-gouvernement de droite a proposé en 2013 de créer une société immobilière pour exploiter en commun la location des propriétés du clergé et en partager les bénéfices. Le problème est qu'il n'existe pas de cadastre, qu'un certain nombre de diocèses échappent au pouvoir central de l'Église elle-même, sans parler du mont Athos, paradis fiscal qui gère un patrimoine considérable en toute indépendance. L'État n'est pas prêt de voir l'Église renflouer ses caisses. En revanche, il continue à payer les prêtres qui, même avec 25 à 30% de baisse de salaire comme les autres fonctionnaires, lui coûte 220 millions d'euros par an. Sylvie Maréchal.